Bonjour et merci d'être avec nous pour cette séance importante et particulière du cycle Claire Simon, les rêves dont les films sont faits, organisé par la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Alors aujourd'hui, c'est un moment de conversation et d'échange privilégié qui nous permettra ensemble de traverser l'œuvre de Claire Simon. Le cycle a commencé la semaine dernière avec l'avant-première du dernier film de Claire, Notre corps, qui sort en salle tout bientôt, mercredi prochain, le 4 octobre. Allez-y. C'est un film puissant et je trouve que c'est aussi beau de le voir dans l'espace collectif de la salle de cinéma. Peut-être aussi pour se sentir un peu moins seul face à toutes les émotions que ce film fait vivre. Et si vous êtes venu durant la semaine, vous avez pu voir la grande force du cinéma de Claire Simon, un cinéma qui réussit notamment, en observant des proches et des lieux familiers, à tirer des histoires qui montrent la place qu'occupe le récit dans la vie, dans nos vies, et qui montrent à la fois la réalité des rêves et la fiction dans le quotidien. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de venir, ne vous inquiétez pas, le cycle continue jusqu'au 1er novembre, ici à la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Donc aujourd'hui, pour essayer de comprendre comment Claire, tu réussis à faire émerger et advenir ces récits, on va tenter de voir avec toi comment les histoires s'écrivent. Merci Claire d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour cet échange, nous avons la chance d'être en présence de Luc Forveille, monteur qui collabore avec toi, Claire, depuis une dizaine d'années et qui a une très grande expérience du montage de cinéma documentaire. Luc, merci d'être avec nous. Et il y a aussi Arnoé, mon cher collègue programmateur, qui a été sollicité pour cette discussion, car Arnaud, en plus d'avoir un point de vue toujours pertinent et précieux sur le cinéma, tu as aussi un rapport très étroit à l'œuvre de Claire, sur laquelle tu as beaucoup écrit. Donc merci à vous trois d'être avec nous. Et je vais juste expliquer un peu la manière dont l'échange va s'articuler. Dans un premier temps, Arnaud et Claire, vous allez réfléchir à ce qui se joue au moment du tournage, parce que sur tous tes films, si je ne me trompe pas, c'est toi qui tiens la caméra, et c'est avec cet objet que... c'est l'objet qui constitue peut-être ton principal outil pour mettre en scène et écrire. Et ton cadre ne fait pas qu'observer, il raconte déjà et fait se déployer la narration, les tensions en jeu. Et donc, voilà, on va voir comment aussi l'outil caméra change au fil des années et comment aussi ça implique peut-être une modification de ton travail. Et dans un deuxième temps, Claire et Luc, vous allez passer en salle de montage et on va essayer de tenter de comprendre comment l'écriture se fait à cet endroit et aussi de voir comment vous organisez dans le travail parce que mais Claire, tu as aussi été monteuse, et donc de voir comment vous travaillez ensemble, vous vous organisez. Donc merci à vous d'être là, et Arnaud, je te laisse prendre la parole.
Merci à toutes et tous. Donc effectivement, avec Claire, très rapidement, on est arrivé à l'idée de parler de la caméra. Claire est une romancière, mais dont l'outil ou le stylo, c'est la caméra et des caméras. Claire est aussi une cadreuse, une opératrice qui la met dans une famille de cinéma, une généalogie aussi de cinéastes. Et Claire, qui est une grande passeuse, mais aussi une grande penseuse du cinéma, en tout cas une pensée du cinéma en acte et en action. Donc je trouvais ça très intéressant de passer par cet élément technique qu'est la caméra, qu'elle transforme en forme, en récit, en relation. Et comme, je dirais, tous les cinéastes qui se respectent, eh bien, il y a une pensée de l'outil. Voilà, une pensée de l'outil. Et je crois que c'est inséparable d'être un cinéaste à part entière. C'est ne pas subir la technique, subir l'outil, mais de le penser, d'en faire, de lui demander des choses et d'en faire des formes. Donc évidemment, à travers la caméra, c'est la question du récit qui va se poser, des histoires, qui est un petit peu le fil de cette rétrospective, question de mise en scène, question de relation entre les corps, question de récit, Et bien sûr, question d'image, au sens aussi plastique de l'image, et puis la question de l'écoute, puisque la problématique du son, enfin de l'écoute, bien sûr, puisque le cinéma de Claire est un cinéma de l'écoute au sens intellectuel, mais aussi, on verra aussi comment techniquement se passe l'écoute avec ces différents outils. Donc on va travailler à partir de trois extraits, et puis ensuite qui correspondent à trois outils, trois supports qui vont nous permettre donc de remonter au tout début, aux origines de ton cinéma, puis de traverser comme ça des techniques jusqu'au numérique. Et là, on n'aura pas d'extraits sur le numérique, mais on aura des caméras. Voilà, qui ont été, on le remercie, amenés par un valeureux nommé Michel qui a affronté quelques embouteillages pour nous les amener. Donc merci beaucoup Michel. Est-ce que Claire, tu veux dire quelque chose avant qu'on commence le parcours d'extrait autour de cette question de la caméra?
C'est-à-dire que moi, je suis, alors si parfois on dit que je fais partie des gens qui sont autodidactes, d'abord je voudrais te dire, Jean Rouch, il disait, voilà, il y a les filmmakers et les autres. Les filmmakers, c'est ceux qui font les films à la caméra. Voilà, donc je fais partie du clan des filmmakers. Et je dois dire que moi, j'étais super impressionnée par le fait de filmer, par les chefs-op, la lumière et tout. Je me disais, voilà, j'y arriverai jamais, etc. C'est même pas pensable. Et donc, au début, j'ai fait un film avec un... J'ai fait deux courts-métrages, un assez long de fiction et un plus court. Et celui qui était assez long, je l'ai fait avec un copain qui faisait l'image. Et chaque fois que je lui disais, tiens, il faudrait qu'on se mette là, j'ai regardé dans l'œilleton et ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu. Alors j'étais très embêtée, je ne savais pas, je me disais, bon, il y a un problème, Et alors dès que j'ai été à Varan, et que donc aux ateliers Varan, j'ai fait un stage dont on va voir donc on tournait en Super 8, mais j'avais déjà tourné avec des amis en Super 8. Là, le fait de filmer moi-même, c'était un soulagement immense, c'est-à-dire que je réfléchissais, enfin voilà, c'est. Et puis, ce qui me plaisait beaucoup, ce que je trouvais génial, c'est que c'était une petite caméra, c'était le Super 8, c'est tout petit. Hein. Moi, j'étais assistante monteuse à l'époque, on travaillait en 16, en 35, voilà. Une fois projeté, le Super 8, c'est quand même du cinéma, quoi. Et moi, je trouvais ça génial. C'était pour moi quelque chose de presque inatteignable de filmer, quoi. Je n'ai jamais appris, sauf toute seule, quoi. Voilà, c'est tout.
Donc, le premier extrait, on va dire la période Super 8. Ouais. C'est un extrait de Moinon ou Patricia. L'argent de Patricia, pardon, 1981. Et donc, effectivement, c'est un film... Alors, si vous ne l'avez pas vu cette semaine, il repasse bientôt.
Le 1er novembre. Le
1er novembre, et c'est inratable. Voilà. Mais on va voir donc un petit extrait. Alors, il y avait un extrait, je le dis aussi à Claire, qui nous semblait très intéressant, mais qui est long. Et donc, comme il fallait des extraits assez ramassés pour la masterclass, on a choisi un autre extrait. Voilà. Voilà, alors peut-être pour partir sur des éléments très concrets, factuels. J'ai la réponse, mais j'ai envie de demander comment est constituée l'équipe de tournage ici.
Je suis toute seule. Oui.
Voilà,
oui.
Donc, comment aussi la caméra écoute ici, quelles sont les conditions de prise de son?
Ah oui, c'est rude. Hein. Y a un micro sur la caméra et moi j'ai un casque. À partir de ce moment-là, j'ai toujours eu un casque. pour ce que je pense que pour filmer, il faut écouter en même temps. Voilà, mais le Super 8, c'est une petite bande magnétique qui est collée sur le film. Et donc, la pression est flottante un peu sur le... Donc, ça tremble un peu. C'est pas terrible, quoi. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est la naïveté qu'on pouvait avoir, elle et moi, d'être sûr qu'on pouvait rentrer dans la banque en train de filmer, quoi. Ça, c'était vraiment... Moi, j'y croyais dur comme fer, hein. Je me disais, voilà, c'est intéressant, parce qu'elle a tout le temps des problèmes d'argent, donc elle vient de toucher un chèque, elle va... Voilà, c'est pour ça que je voulais voir l'argent dans l'enveloppe, quoi. Voilà. Et elle est très drôle, quoi, elle.
Et donc, en termes de... Aussi, peut-être pour partir de l'outil, donc le Super 8, ce sont des... Bon, il y avait des prises de durée, ouais, précédentes.
Des cartouches, voilà, de 3 minutes.
Des cartouches de 3 minutes. Donc comment, à partir de là, de cette réalité technique, comment se construisaient les séquences, les situations entre Patricia et toi? On peut imaginer que... C'est une contrainte, bien sûr.
Mais... Bah, c'est une contrainte qui nous apparaît aujourd'hui comme une contrainte. À ce moment-là, ça n'était pas une contrainte. C'était... Enfin, je crois que... Parce qu'il y a une très longue séquence où elle fait un striptease, mais on ne voit que son visage. Parce que je lui demande combien d'argent elle a sur elle et elle se déshabille en disant que... qu'on lui a tout donné, quoi. Et là, je crois qu'on avait un chargeur de 10 minutes ou de 5 minutes qui était un peu professionnel, si on veut. Mais sinon, tout le monde pouvait acheter des trucs. Enfin, on nous filait des cartouches de 3 minutes qu'on envoyait à Kodak, qu'on recevait le lendemain ou deux jours après. Et voilà, c'était... Mais moi, ce que je trouvais très joyeux, c'était le fait de pouvoir improviser complètement et de jouer. Alors moi, je jouais, j'étais très autoritaire exprès avec Patricia, comme ça, dans un rapport de jeu vraiment... Voilà, c'était le personnage que je m'étais construit.
Voilà, je sais que tu avais, lors d'une conversation ensemble, un entretien, tu avais dit que consciemment et inconsciemment, tu singeais les maîtres.
Ouais,
cette voix.
Ouais, ouais. Voilà. Je faisais mon petit Godard torturant ou je sais pas quoi, ou enfin genre le mec vraiment pas sympa et tout, voilà. Et elle, ça lui permet d'être merveilleuse. Elle joue, elle est très drôle, elle est tout le temps coupable avec des problèmes d'argent et tout, comme nous tous d'ailleurs. Mais du coup, elle est drôle.
Et auparavant, donc, il y a ces deux films qui étaient faits en 16 mm, hein, les deux films... que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans la rétrospective, que
non,
tu ne
qui était de la fiction.
Qui était de la fiction aussi.
Ici, j'ai interdit la fiction.
on ne va pas relever. C'est une provocation. est-ce que, on va dire, en termes de... Voilà, de donc, il y a cette voix, déjà, qui naît aussi. Mmh. Est-ce que dans les films interdits en ce lieu, est-ce qu'il y avait déjà cette voix?
Non, pas du tout, c'était de la fiction.
Oui. Et est-ce que cet outil Super 8, on va dire, a fait naître quelque chose qui serait de cette raconteuse d'histoire, de cette...
Ah oui, oui, c'était formidable. Moi, je trouvais ça vraiment d'improviser, de pas du tout savoir ce que j'allais faire, d'être avec Patricia. On avait passé un dimanche, voilà, là-bas. Elle était secrétaire des ateliers Varan. Elle avait plein de problèmes d'argent. Voilà. Et donc, on pouvait... fur et à mesure, quoi. C'est ça qui était Moi, j'attendais de. Enfin, je sais pas, je trouvais un truc beau, donc on filmait là. Elle était. C'était très libre, quoi. Et je retrouvais quelque chose que j'ai vu un peu dans ma famille, qui existe chez plein de gens, des gens qui dessinent, quoi. Voilà, on pouvait faire ça comme ça, quoi. Ça, c'était formidable parce que. Comme j'étais stagiaire et assistante monteuse, la corporation du cinéma de fiction était tout le contraire, quoi. C'est-à-dire, il y avait très peu de liberté d'improvisation, et moi, ça m'ennuyait profondément, quoi. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce film-là, j'ai fait deux autres films en Super 8 qu'on présente ici, qui avaient tous pour thème le rapport de quelqu'un à l'argent, quoi. Comment ça dessine sa vie. Parce que je me souviens qu'à l'époque, justement, il était dit, voilà, le scénario en France, c'est vraiment nul et tout. Il n'y a pas de bons scénaristes. Je voyais des gens qui réécrivaient sans cesse des scénarios pour l'avance sur recette, etc. Et moi, je me disais, mais le scénario numéro un, c'est quand même, il est écrit par l'argent, quoi. Donc il suffit de se baisser, quoi.
Et de suivre de suivre les flux.
Oui, il suffit de suivre le fil de l'argent et les histoires tombent comme ça très vite, formidable. Et donc j'avais écrit ce projet-là qui n'avait pas du tout de que j'ai pas réussi à faire financer, donc je l'ai tourné toute seule.
Voilà. Marion, je sais pas si toi tu as des. Et Luc aussi, hein, bien sûr, hein, si vous voulez intervenir.
Moi, je me demandais justement aussi, parce que dans la fin de Patricia, c'est un peu ça, mais on sent que les préoccupations d'argent de Patricia sont aussi des préoccupations peut-être d'argent pour financer des films, et que ou je ne sais pas si c'est un peu le mise en scène, ce truc de t'as pas eu de
non, mais je voulais qu'elle joue dedans. Voilà. J'avais pas eu l'aide au court métrage, etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris un autre chemin. Plus ou moins. Enfin, j'ai quand même fait un court-métrage de fiction. Parce que j'avais décidé, après, à un certain moment, que j'enverrais à chaque fois, j'enverrais un projet de court-métrage à l'avance, enfin, au CNC, à l'aide au court-métrage, jusqu'à ce que ça marche. En fait, j'ai pas du tout tenu tous les trucs obsessionnels. Moi, ça marche pas avec moi. Mais il y en a eu un auquel j'ai vraiment tenu et que j'ai financé moi-même, qui s'appelle La Police et qui est un film de fiction. Et là, j'ai eu des prix et tout. Il a été acheté par Canal+, donc finalement, il s'est remboursé, quoi. Mais ça, c'était plus tard. Je l'ai fait... c'était beaucoup plus tard.
Bien. on va faire hein, des grands sauts comme ça dans le temps et dans la. Donc on va passer dans une deuxième. Alors effectivement, hein, il y a eu ensuite d'autres films et d'autres caméras, dont le 35 mm, mais pour des films interdits, des films de fiction.
Non, si, non. Il est là, Scène de ménage, on l'a tourné avec lui, avec... voilà. Mais là, par exemple, Scène de ménage, j'avais tout fait d'abord une fois toute seule en vidéo. Donc je savais exactement ce que je voulais. Bon, comme c'est le ménage, c'était facile d'accès, c'était chez moi. Et donc j'avais tout filmé d'abord, enfin... J'avais fait plein de repérages en vidéo et donc au chef-op, je lui avais tout montré. Et puis, je me souviens, c'était avec Miu Miu. Et il y a un dernier plan comme ça, qui est un plan où on reculait, où on avançait vers elle, je ne sais plus. Et j'étais au cadre et Miu Miu m'a dit « Oh ben c'est beaucoup mieux quand tu es au cadre hein. ». Ça change tout, quoi. Et c'est marrant, voilà. C'était la fin de mon travail avec un chef-op cadreur, quoi. et j'ai toujours eu ce rapport-là avec les acteurs. qu'ils aiment beaucoup qu'on soit le cadreur, quoi, en fait. Il y a un rapport très simple, très, très direct, et qui fait qu'on n'est pas obligé de parler beaucoup, parce que toujours on dit, voilà, la direction d'acteur, machin. Et souvent, moi, comme tu as dit, j'ai beaucoup enseigné dans les écoles. Les jeunes gens, ils veulent toujours se dire, je fais de la direction d'acteur, alors qu'est-ce qu'il faut dire, machin, tout ça. Or, quand on filme quelqu'un, on n'est pas obligé de lui dire grand-chose, quoi. On est proche et on se comprend. Parfois, on peut juste même se toucher, comme ça. Et ça va très bien, quoi. En fait, on dit juste le truc qu'il faut à un moment, mais ça peut être très court, et puis ça va, quoi, en fait.
Et dans le sens où la situation documentaire est aussi de la direction d'acteur,
oui,
mais en
bien
tout
sûr,
cas,
bien
que
sûr.
La mise en scène est
oui,
une
oui.
forme de direction.
Oui. Et par exemple, pour récréation, j'ai cherché une caméra parce que j'avais déjà tourné des trucs avec ma fille et sa copine en V8, voilà, avec lequel j'avais fait les patients. Et en fait, quand je suis allée dans la cour, j'ai essayé 3 ou 4 caméras. Voilà. Et j'ai trouvé cette caméra Canon qui était une caméra que je pouvais tenir ici, quoi. Et qui avait, alors à l'époque, il n'y avait pas d'écran, mais il y avait un long viseur. Et ce qui fait que je pouvais, pour les enfants, ils ne voyaient pas mon visage, enfin, ils me voyaient pencher comme ça, mais moi, j'étais à la hauteur de leur visage, quoi. Et du coup, voilà. Alors, et puis cette caméra avait plein d'autres avantages. Voilà. Et à chaque fois, en fait, il faut trouver la bonne caméra. Une caméra, parce qu'une caméra, c'est aussi moi ce qui m'intimidait et ce que j'aime beaucoup dans le fait de filmer, c'est le rapport physique que j'ai à la caméra, mais au monde, aux gens, comment je les suis, comment, par exemple, dans Coûte que coûte, ce qui était merveilleux avec la Hatton, voilà, qui était sur l'épaule et tout, le chat sur l'épaule, c'était l'idée de Boviala, il fallait que la caméra soit comme un chat sur l'épaule. Et ben, c'était tellement bien dessiné, tellement, ce qui n'est plus du tout le cas des caméras, que je pouvais tourner dans, il y avait une pièce où on faisait les étiquettes qui faisait 1 mètre carré, quoi. Et ben moi j'étais là avec un employé et il y avait la perche qui arrivait et ça marchait très bien. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport de soi physiquement, on porte la caméra, on est comme ça et on est avec les autres avec son propre corps, quoi. Et par exemple, moi, j'avais toujours peur des trucs. Il faut marcher avec les gens. Comment on va faire des travelling à l'épaule et tout. C'est toujours, toujours très, très difficile. Je suis assez maladroite. Mais disons que j'essaye de me contrôler. Mais j'ai tendance à faire complètement ce que je veux voir. Et du coup, parfois, c'est un peu maladroit comme ça, mais au moins on sait ce que je veux voir, quoi. Ça a l'avantage. Par exemple, j'ai découvert en faisant récréation que, je me souviens, c'est quand c'est dans le saut, elle dit j'ai sauté de là et tout, voilà. Quand elle saute, la petite fille, enfin qu'elle n'arrive pas encore à sauter, elle a sauté à côté. Et donc j'étais un peu en retard. Et je me suis rendu compte que quand on était en retard, c'était formidable. Parce qu'en fait, le son disait « j'ai sauté de là » et tout. Moi, je mettais un certain temps à y arriver. Et du coup, on voulait voir quoi, ce qu'elle disait. Et tout le temps, c'est ce que dit Pablo Casals. Le rythme, c'est le retard. Donc, c'est très intéressant. Et quand j'enseignais à la FEMIS, je disais toujours, bon, moi, j'avais pas affaire aux gens qui faisaient de l'image, mais je leur disais, soyez en retard, c'est hyper important, quoi. Parce que si vous êtes en même temps que les gens qui bougent, que les gens qui font des choses, alors, au fond, on s'ennuie un peu.
C'est littéral.
Ouais, on s'ennuie et on sait pas ce qu'on veut voir. Voilà. Alors que quand on est en retard, et peut-être même dans ma maladresse, parfois les spectateurs doivent sentir ce que je veux voir. Et donc, ça met une certaine tension, quoi. On se dit, je me souviens, bon, excusez-moi, je vais dans tous les sens, mais dans Mimi, qui va être projetée, il y a une scène comme ça vers la fin où elle me parle de la mort de sa mère. Il y a une très grande montagne derrière elle, et c'était très compliqué de savoir si j'avais le haut de la montagne, etc. Et par rapport à ce qu'elle disait, parce qu'elle racontait quelque chose qui avait à voir avec cette montagne, et je changeais tout le temps le cadre comme ça, à peine un peu, et moi j'avais hyper honte d'avoir fait ça, hein, vraiment, et plein d'amis qui ont vu le film ont dit, mais non, on est avec toi, on se dit, ah ouais, alors, ah oui, et le haut de la montagne, etc. Donc ça fait que peut-être le spectateur est avec l'image, quoi, plus, comme ça. Et voilà, parce que moi j'ai tout le temps, tu peux témoigner, tout le temps en train de trouver que je suis archi nulle et que j'ai fait plein de conneries, etc. Mais alors maintenant, ce que j'essaye, c'est d'apprendre ce qui quand même dans mes conneries marche et essayer de ne pas en faire trop. Mais voilà, par exemple, ce moment où elle dit j'ai sauté de là, j'ai beaucoup à... voilà, j'ai vraiment appris ce truc du retard, de continuer. Et j'ai appris aussi dans récréation, je coupais pas, je pensais au montage, enfin je coupais peu. Et je me disais, ben, je couperai là, je reprendrai là, je couperai là, je reprendrai là, mais donc je continuais, quoi. Et parfois, on n'a pas coupé, évidemment, là où on avait dit qu'on couperait. Et c'était pour être vraiment dans l'histoire et pour surtout arriver à filmer ce que moi, je comprenais. Je comprenais qui menait la danse, qui était... martyrisé ou pas, etc. Et j'étais très près des enfants, quoi. J'étais, ça, c'était l'autre chose que j'ai découvert côté caméra dans récréation. C'était qu'au début, évidemment, c'est intimidant, des enfants, ils sont formidables. Donc je me souviens, j'avais filmé une petite fille, d'ailleurs c'est dans le film, où elle fait tomber, elle est comme ça, très, très bien habillée, tout ça. Et ça ne m'allait pas, quoi. Je l'ai quand même gardée parce que c'était joli, mais et que ça raconte quelque chose parce qu'elle se fait immédiatement attaquer. Mais malgré tout, d'être prêt, ça faisait que les enfants, comme m'a dit Denis un jour, ils t'ont invité, quoi, ils t'ont toléré, quoi, ils ont accepté que tu sois tout prêt. Et donc j'étais à côté, ça m'empêchait pas de filmer large, hein, mais le fait d'être... voilà, parce que la caméra, c'est aussi où on est. C'est comment on cadre, mais c'est aussi où on est. Quand on va très vite, bon, dans un documentaire, on doit aller très vite, hein, souvent. Quand on arrive quelque part, c'est ce que Ross McElroy raconte très bien dans un de ses films, il faut tout de suite trouver l'endroit où on veut filmer, où on veut être, où on va pouvoir voir... filmer la scène et être entre, parce que c'est ça qui compte, c'est être entre là je paraphrase un vieux maître, mais c'est vrai, il faut être entre les personnes, pouvoir filmer leur corps, comment ils sont, par exemple dans une scène de conversation, il faut vraiment pouvoir filmer les corps et tout, et voilà, et donc il faut tout de suite trouver le bon endroit. Mais moi, ça ne me terrorise pas. Je le trouve assez rapidement, en règle générale. Parce que Ross McElwee, qui est un cinéaste que j'admire beaucoup, il y a un film où, je ne sais plus quel film c'est, où il se fait piquer la bonne place. Et il raconte ça. Il raconte parce qu'il y a la télé qui vient chez lui et il se fait piquer la bonne place. C'est Time Indefinite,
Time
non
Indefinite. Ah oui, voilà. Time Indefinite.
Voilà. Pardon, j'ai digressé.
Tu as dit que tu te laisserais guider, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Hein.
Ah ouais, je t'ai dit que quand je dansais avec un mec, j'avais beaucoup de mal à le suivre.
Donc, je tente de reprendre, de remener la danse, mais non. Tu as parlé de la caméra, la V8, de la vidéo, et donc on a pas choisi un extrait de récréation, mais on a choisi un extrait des patients.
D'accord,
voilà.
Super.
Donc on va le regarder.
J'ai beaucoup appris sur les patients aussi.
Tu nous diras après. Ouais. Merci. Voilà, ce merveilleuse séquence de ce merveilleux film.
Juste dire que le film passe demain. Je fais des petites annonces voilà. Comme ça.
Film du dimanche. je vais te citer. Et, enfin, non, je trouve que c'est intéressant. Donc, évidemment, la vidéo change beaucoup de choses en termes de tournage, en termes de peut-être de pensée du montage aussi, ou de d'anticipation du montage. On voit qu'ici, on est aussi davantage dans une situation de cinéma direct plus classique. Et donc, je te cite. Donc, les patients ont été pensés autrement, un processus inscrit dans une durée, plus comme un vrai, entre guillemets, film. Ma trajectoire part du Super 8, qui est un peu un ersatz de cinéma vers un autre ersatz, la vidéo, que l'on transforme en vrai format de cinéma. Je trouve que c'est vraiment très... très intéressant, cette question de l'ersatz et de qui tend vers du vrai cinéma, vers l'écran aussi, même si je crois que les patients n'étaient pas sortis en salle.
Non.
Non.
Voilà. Il est passé sur...
Pardon. Ouais.
Il est passé à la télé, c'est Thierry Garrel qui l'avait pris, il était donc sur la 7, sur la 3.
Donc peut-être cette question de la vidéo, et donc c'est la caméra V8 ici, qu'est-ce que ça change donc le rapport à la séquence, et peut-être aussi voilà, cette question du montage dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure, où tu penses bien sûr toujours au montage en tournant.
Ben je suis pas intimidée sur le fait de... parce qu'évidemment, avec la vidéo, nous arrive la longueur. On peut filmer plus longtemps, ça coûte pas très cher. Alors, à ce moment-là, ce qui était formidable, c'est que l'œilleton était en noir et blanc, ce qui permet de voir la lumière beaucoup plus, quoi. Et moi, j'ai beaucoup appris, comme ça, en tournant les patients, de travailler... de me placer tout le temps dans la lumière autrement. Et puis, c'est aussi de filmer tous les détails. Enfin, voilà, c'était marrant, quoi. Avec des acteurs hors du commun, hein, quand même.
Et là, tu es toujours seule son, c'était un...
J'avais un micro sur la caméra et lui, il avait un micro-cravate que je branchais dans la voiture, que je pense que je ne branchais pas quand on était chez les gens. Je le branchais quand il était... Parfois, enfin, il fallait qu'on reste proche. Donc, ce n'était pas toujours pratique parce qu'à l'époque... peut-être ça existait, mais moi j'avais pas de HF, donc il fallait le câble entre lui et moi, quoi. Voilà, le cadre il se faisait tout le temps parce que c'était ces intérieurs comme ça, formidables, les robes de chambre, tout ça, c'était vraiment génial, quoi. Et puis elle lui jette la clé, donc il y a plein de le parcours, toutes ces choses qui sont très belles, quoi, sur moi je trouve, hein, la relation entre les gens, et puis des dialogues pas mal, hein. Qu'est-ce que c'est que l'oppression?
oui bien sûr.
Non, parce que il y a un truc qui me frappait justement avec cette histoire de micro, c'est que ce que je me disais, c'est que la contrainte de ce micro-là, c'est que ça oblige à entendre ce qu'on voit et à voir ce qu'on entend.
Ouais,
et c'est un vrai truc sur la position de la caméra, parce que vraiment, là, je me disais ça, t'es vraiment au cœur, quoi. Mm. T'es au cœur, et que ce micro-là induit ça. Mm. Induit ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre de loin, sinon on n'entend pas, quoi. Mm. Et que je me disais que c'est un truc qui est
bien
vraiment
sûr.
Frappant, quoi, là.
Bien sûr. Mais quand même, si tu veux, quand elle dit, elle parle, et puis que lui, pendant ce temps-là, il lui dit 150, etc., et qu'on voit le fric, et puis après, elle revient, etc. Voilà, c'était marrant. Après, ce film a été monté par Francine Sandberg, qui est une merveilleuse monteuse, et qui le montait vraiment comme de la comédie tout le temps, quoi. Clac, 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 voilà, c'était super. Elle disait, il faut le monter comme une comédie. Moi, j'apprenais, hein, je ne savais pas.
Et tu l'as tourné comme une comédie ?
Bah, ça me faisait beaucoup rire. Hein. J'avoue que je n'en revenais pas par moments. Quoi. C'était formidable. Oui, oui. D'abord parce que lui, c'est un acteur. Quoi. Enfin, il joue. Puis que c'était vraiment des scènes de théâtre avec des femmes. C'était la plupart du temps des femmes âgées qui l'attendaient pour jouer la scène. Quoi. Donc, c'était formidable. On pouvait vraiment y aller. Quoi. C'était super. Moi, j'adorais ça. C'était... Et puis, c'est surtout ce qui est très beau, c'est que chacun a sa langue. Le médecin qui dit, et puis elle me fera un petit poumon, quoi. Tout d'un coup, il lui parle. Ils ont leur langue. Ah, je veux bien, voilà. Bon, c'est très ancien, c'était en 89. Moi, je suis contente d'avoir filmé cette langue.
Nous aussi. Mais
en tout cas, juste pour dire, la caméra, c'était aussi ma liberté. C'est-à-dire que j'ai commencé ce film absolument seule. J'avais qu'une peur, c'est qu'on m'empêche de le faire, donc je n'en parlais pas. À un moment, j'ai voulu louer une caméra un peu plus professionnelle que la mienne. Et les films du village me l'ont prêté, voilà. Donc j'avais une bonne caméra, mais je n'ai prévenu un producteur qu'une fois que j'avais pratiquement terminé, quoi. Voilà, j'avais qu'une peur, c'est qu'on m'empêche de faire le film, quoi. Qu'on me dise, il faut le faire comme ci, comme ça, etc. Non, ça c'était... Donc j'ai beaucoup appris en étant totalement seule, quoi. Voilà.
On va continuer avec un film que tu as... déjà évoqué un petit peu, coûte que coûte, donc tourné en 16,
ouais.
Super 16,
Super 16.
Ouais. Voilà, on va regarder l'extrait.
Bien. Juste dire oui. Que coûte passe le 20 octobre et sera accompagné de Claire et Arthur Harari. Donc vous êtes conviés.
Bon, évidemment là c'est la question de l'argentique, peut-être aussi... la question du son et de l'équipe. Comment est-ce que tu as dit un petit peu ce plaisir et cette volonté pour toi de travailler de manière un peu presque clandestine quand tu disais avec les patients. Donc là, de rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du collectif au tournage, et qu'est-ce que ça a
ouais,
impliqué
pour toi ? Oui, c'était le premier documentaire que je faisais à plusieurs, ouais, parce que Récréation, je l'ai tourné toute seule. Même si j'avais tourné des fictions avec des gens. Et là, bah, j'ai tourné avec justement celui avec qui on avait au son, Dominique Lancelot, avec qui on avait fait le son en post-synchro de Récréation. Et puis, on avait réenregistré ce que disaient les enfants pour pouvoir avoir un rapport à l'ambiance qui était meilleur et bien entendre ce qu'ils disaient. Mais c'était exactement ce qu'il disait. J'avais un assistant caméra, quoi. Voilà. C'était super, ouais. Donc, je faisais pas le point. Je cadrais, quoi. C'est tout. On n'était pas assez riche pour avoir le marquage temps. Donc, on avait un petit système... On tournait tout le temps en même temps. On ne faisait pas de clap et tout. Et après, moi, je resynchronisais. C'était très facile. Et voilà. J'étais très à l'aise, en fait, très vite, avec la caméra. Le chat sur l'épaule de Jean-Pierre Boviala, qui était vraiment formidable, quoi. Ouais. il n'y a pas de caméra qui est arrivée à ça depuis, dans les caméras numériques et tout ça.
Et là, alors, sans être, on va dire, trop protocolaire comme ça, mais est-ce que, voilà, le 16 mm, c'est des chargeurs de 10 minutes. Mmh. Voilà, est-ce que tu retrouvais éventuellement presque avec un temps un petit peu plus élargi, bien sûr, mais quelque chose de l'ordre de la... de cette compacité de la séquence,
oui,
avec l'argentique.
Je tournais quand même
trois,
pas mal. Hein.
3 minutes du Super 8, ouais. Mais là, 10 minutes, mais ça induit quand même quelque chose de l'ordre...
Je tournais une dizaine de boîtes par jour, ou à peu près, ou plus. Donc, ça paraissait beaucoup à la production. Mais enfin, tout le monde faisait ça, quand même. Au film d'ici, c'était un film produit par les films d'ici. Et oui, j'ai pas, c'est bizarre, j'ai pas tellement le souvenir de m'être dit faut faire gaffe, pas trop tourner, etc. J'attendais toujours, enfin, parce que j'y allais de façon périodique, à chaque fois que la boîte devait payer les fournisseurs, les employés, etc. Donc j'y allais la semaine où on paye. Où on ne paye pas. Et donc, mon souci était à la fois de raconter ce qui se passait et qu'on comprenne ce qu'on n'avait pas vu. Voilà, c'était aussi ça. Mais là, j'avais des acteurs exceptionnels, quoi. Parce qu'ils étaient dans une situation... Ils étaient formidables et ils étaient dans une situation qui empirait... Enfin, et donc, toute leur façon de parler, de réfléchir, était pour essayer de passer au-dessus du drame, quoi. Et ça, c'était Fatih qui parle là, celui qui est plus fort. C'est génial, quoi, quand il dit « Ah, comme commercial, il est fort, hein, vraiment », et tout ça. Et on sentait tout cet effort magnifique d'essayer de sauver son travail, quoi, de sauver la boîte, de sauver cette idée qu'ils étaient autonomes, quoi, eux aussi. Voilà.
Et après, y a, c'est vrai que coûte que coûte a aussi une dimension, une richesse visuelle. Et peut-être, je ne sais pas comment le dire, c'est toujours un peu compliqué cette question du beau, mais disons d'une dimension plastique ici, avec le blanc des costumes, les chromes, etc. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'était apparu comme élément de mise en scène?
C'est merveilleux, les cuisiniers, ils ont des costumes et tout, c'est tellement beau quand ils poussent la voiture en marche arrière quand même, hein, il faut le faire, quoi. Ça raconte déjà tellement le film. Voilà, et puis c'était à Nice, c'est très beau, donc j'avais fait ces plans avec les palmiers, il y a la... je filmais à l'intérieur entre la cuisine et le bureau, comme dans un camp retranché, quoi. Voilà. Mais j'aimais beaucoup cette ambiance de la zone industrielle, et puis ils sont très beaux, très très beaux, quoi. Mais par exemple les costumes, c'était génial, quoi, parce que ça. Ça dessine les visages complètement, les mains. Et puis tout le fond en alu, c'était très beau aussi. Voilà.
Pas de lumière.
On n'éclairait rien.
Ouais.
Même la nuit, ouais. On n'éclairait pas.
On pourrait croire tellement, c'est juste. Ça.
Non.
En tout cas.
Ouais, on n'éclairait pas.
Ouais. Mais ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon, pour que qu'on puisse tenir et passer pas trop tardivement en salle de montage, on continue de galoper un petit peu dans comme ça, et on va arriver à la période numérique. Et à quel moment tu as commencé ton premier tournage, même si c'est une fiction, tu peux la citer ici.
Je ne sais pas, c'est un long... Parce qu'à partir du V8, ensuite il y a eu le HI8, avec lequel j'ai tourné Récréation en HI8. Ensuite, on est passé à la DV. Voilà.
On peut pas... peut dire que c'est numérique.
Ouais. Voilà. Donc j'ai tourné 800 km en DV, mais j'ai tourné Mimi en 16 mm parce que c'était en été à Nice. Et là, j'ai travaillé, c'était vraiment rigolo, j'ai travaillé un seul mouvement, le panoramique, sur pied. Donc j'étais sur pied parce qu'il y avait la mer, parce que voilà. Et ça, c'est un autre truc. C'est vachement intéressant de travailler sur pied. Moi, je me sens aussi à l'aise sur pied qu'à l'épaule. C'est un peu moins lourd. Mais on peut fabriquer des plans complexes sur pied, même quand on n'a pas de travelling, etc. C'est très intéressant. Et puis, bon, ça, c'était un truc de l'argentique. Tourner en été à Nice, ça permettait d'avoir une pellicule très, très, très peu sensible et d'avoir un négatif super bon qui, en 35, on ne peut pas dire si c'est du 35 ou pas, tellement, voilà, parce qu'on a utilisé la courbe de sensibilité de la pellicule au maximum en étant très... Alors que dans Coûte que coûte, j'avais eu un prix qui me donnait de la pellicule et comme on était en intérieur et tout, on était à 400 ASA, tandis que dans Mimi, on était à 25. Voilà, donc on avait une image formidable. Et quand j'ai fait Mimi, ouais, je n'ai fait que des panoramiques. Mais j'avais déjà découvert à quel point le panoramique était, enfin, disons, très intéressant dans Coûte que coûte, c'est-à-dire la manière dont on lie une personne à l'autre. Par exemple, Diad au téléphone qui dit « bon, je vais arrêter de payer les employés » et puis Fatih qui ouvre la porte du bureau et qui rentre, voilà, et qui a donc forcément entendu. Et donc là, il ne faut pas couper, quoi. Voilà. Ça, c'était super, quoi. Et ensuite, oui, alors donc, j'ai fait en DV 800 km. J'avais fait la soirée fait d'hiver aussi en DV pour Arte. Et là, il y avait plusieurs caméras DV. Il y avait la PD-150 et puis il y avait une autre, la PD-100. Et d'ailleurs, j'ai utilisé la PD-100 et 150 pour 800 km. Et je me souviens, quand j'ai voulu... On a gonflé le film ensuite. Il a été kinescopé pour être en 35 mm. Et je me souviens que donc il y avait une boîte en Suisse qui était très spécialisée, qui était très bonne et tout, parce que j'avais déjà kinescopé récréation. Et le type, il a acheté la caméra tout de suite, tellement il trouvait que ça sortait bien quand on le kinescopait en 35, quoi. Et ça, c'était aussi intéressant. Ça retrouve le truc du Super 8, c'est-à-dire on tourne en DV comme ça, etc. Mais on sait que ça va devenir du 35, quoi. Et donc, c'est intéressant, tous ces espèces de passages comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais j'ai encore tourné en Super 16 une fiction Ça brûle. Et c'est à partir du moment où on a tourné Les Bureaux de Dieu qu'on est passé vraiment au numérique, comment on appelait ça, grande définition, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin HD, voilà. Et c'était très drôle parce qu'on tournait donc dans un appartement parisien et on avait fabriqué un faux planning familial. Et d'ailleurs, on l'avait fait valider par les nanas du planning. Elles avaient dit que c'était bon. Et la caméra, c'était une caméra Thomson, je crois. Elle tombait en panne dès qu'on la mettait sur le balcon. Voilà. Moi, je me souviens que le mec de Thomson est venu. Moi, je lui dis, moi, pour moi, une caméra, c'est comme la guerre de 14. Hein. Il faut pouvoir aller dans les tranchées, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas faire des caméras qu'on peut même pas sortir sur le balcon. Vous voyez. C'était terrifiant. Ouais. Voilà. Et puis après, je crois que j'ai toujours tourné en HD. Voilà. Que ce soit après, je sais plus ce que j'ai fait, Gare du Nord, voilà, géographie humaine, tout ça, c'est en HD avec des caméras différentes. Et à chaque fois, toujours trouver, c'est très 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 compliqué. Et l'impression que plus ça va, plus les caméras sont faites par des gens qui s'en servent pas. Elles ont aucune ergonomie. Elles sont voilà, il faut tout le temps réapprendre comment faire avec cette caméra, quoi. Ce qui est vraiment épuisant, quoi. Mais bon, moi je m'y fais, quoi. Par exemple, le bois, je l'ai tourné avec la F5. C'était après ça allait, mais au début, Stefano Savona m'a prêté sa caméra. C'était une catastrophe, quoi. Le viseur tombait tout le temps. Enfin, voilà, on est devant des manipulations complexes. Et maintenant, ça va. Là, si vous voulez, j'ai amené les deux dernières caméras que j'ai. Vous voulez le voir ? Donc la toute dernière. Voilà, ça c'est. J'ai tourné notre corps en partie avec celle-là et avec une très lourde. La FX9, pardon, oui. Avec la FX9. Voilà, et quand j'ai découvert à mon grand malheur que dehors, parce que là, il y a un écran, comme vous voyez, donc il n'y a pas de viseur, c'est une Sony. Et donc, j'ai acheté un écran qu'on met dessus, et maintenant, et je peux cadrer en plein soleil avec et tout ça. Et je me suis habituée à cadrer à l'écran. Au départ, j'étais hyper contre, parce que j'aimais beaucoup l'intimité de l'œilleton. De choisir comment on fait et tout ça, mais finalement on s'adapte à tous les outils, hein. Ça va très bien, quoi. Mais moi j'ai un peu l'impression que j'essuie les plâtres sur un film et qu'au deuxième je suis un peu plus au point, quoi. Ce qui est quand même une catastrophe, quoi. Mais bon. Et pour notre corps, j'avais aussi une caméra très très lourde, Sony, la FX9, que j'utilisais sur pied ou à l'épaule, mais à l'épaule, elle était vraiment dure. Et il y a toujours ce défi, pour une femme en tout cas, de est-ce que je vais y arriver physiquement ? Est-ce que je vais être bonne ? Voilà, est-ce que je vais arriver à filmer comme je veux ? Alors que c'est très lourd. Et ça a commencé, ça, sur coûte que coûte. Et donc, j'ai commencé à faire du sport, exprès pour les caméras, à partir de coûte que coûte, où vraiment, je me suis dit, non, c'est pas possible que je souffre en tournant. C'est impossible, quoi. C'est impossible. Et donc, j'y suis arrivée, quoi. Et donc, je disais tout le temps aux étudiants à la FEMIS, images et sons, vous devez faire du sport, quoi. Parce que c'est pas possible. Les Perchman, c'est hyper long, hyper dur, quoi. Des heures comme ça, les bras en l'air. Et la caméra, pareil, quoi. On doit arriver à faire en sorte que ça soit pas une souffrance physique trop grande. Voilà. Et sinon, j'ai à peu près la même que celle-là. Ouais, j'ai découvert aussi que, bon, ça dépend des films. On peut tourner avec une optique fixe, et ça, c'est très sympa de tourner avec une optique fixe, parce que ça oblige à... Alors ça, c'est le HF que j'ai. Ah, ouf, j'ai un HF que je me suis acheté. Et donc, c'est avec cette caméra... Attends. Ouais, que j'ai tourné le garage. Et ça, c'était rigolo parce que c'était pendant le confinement, enfin, juste la fin du confinement. Et je l'ai commandée à la FNAC et elle est arrivée par la poste. Et c'était super. Ouais. Voilà. Après, je me suis plongée dans les menus et j'avoue que j'ai rien compris pendant assez longtemps. Voilà. Et puis, heureusement, bon, qu'il y a des assistants opérateurs professionnels qui, de temps en temps, vous aident et vous disent deux, trois trucs. Donc, c'était toute la question du point. Mais c'est une merveilleuse petite caméra, merveilleuse. Elle est donc normalement. Ah oui, j'ai perdu le truc de l'œilleton. Mais enfin, il y a un œilleton et un écran. Elle est très légère. Elle est formidable. Et moi, j'aime beaucoup. Après, c'est des trucs comme ça dont on discute avec les étalonneurs. Par exemple, c'est une Panasonic. Bon, les Panasonic, elles ont une certaine équilibre de couleurs qui me convient. Voilà, que j'aime beaucoup. Et que mon étalonneur aime beaucoup aussi. Donc, c'est bien. Voilà. Donc, celle-là, elle est vraiment hyper pratique et tout. L'autre, elle est plus lourde, mais ça va. Et les enfants, là, j'ai tourné avec des enfants. Ils aiment bien parce que ça fait appareil photo. Ouais, la FX3, là, pardon. Ouais. Voilà. Mais à chaque fois, il faut. Voilà, j'étais plus à l'aise récemment avec la FX3 que quand j'étais à l'hôpital. À l'hôpital, je retournais vers la FX9 qui était lourde, mais qui était beaucoup plus. Enfin, que je la sentais beaucoup plus fiable, quoi. Voilà.
Bien. Merci beaucoup, Claire. On va dire que c'est la fin de la première mi-temps de cette masterclass. Moi, c'est pas pour conclure, mais juste ce qui est vraiment formidable en t'écoutant, c'est de voir qu'il y a toujours une grande faculté d'adaptation et aucune nostalgie ni regret d'une technique ou d'une caméra, mais de toujours s'approprier les outils. Oui, mais bon, il y en a qui sont comme ça.
Moi, ça m'ennuie, la nostalgie. Oui, oui.
Ouais. Mais disons que ça, voilà, c'est quelque chose qui se dégage beaucoup aussi de ton propos.
Et maintenant, effectivement, voilà. Il faut passer en salle de montage. Non,
on n'est presque pas en retard quand même, hein, presque pas.
C'est l'heure, et c'est vrai que voilà, je pense que.
Ouais. On est comme sur un tournage, vous voyez, là. Il y a des fils, des câbles. Donc, salle de montage.
Juste, je voudrais conclure par. Ça paraît peut-être. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé, tout ce qu'on a dit. Mais c'est très important d'être. De se sentir. À peu près un peu libre avec son outil. Et je me souviens, quand j'avais tourné Récréation, la caméra, elle tenait dans un petit sac qui est souvent dans le champ, d'ailleurs. Et je venais quand je tournais pas, j'allais au montage de scènes de ménage. Et ça me faisait vraiment rire, quoi, quand même, de me dire, l'équipe, elle est là, sur l'étagère. Et que, évidemment, pour scène de ménage, on était en 35, etc. C'est le seul film en 35 que j'ai tourné, qui d'ailleurs, enfin, c'est le paradoxe, il n'est passé qu'à la télé, voilà, sur Canal+. C'était une production Canal+, c'était le début des séries, donc c'est 10 fois 5 minutes. Et Récréation, que je tournais en HI8 et tout, toute seule avec le sac sur l'étagère et tout, il a été gonflé en 35 et il a été beaucoup projeté en salle de cinéma. Donc c'était vraiment un paradoxe. Et c'est venu d'une chose très simple, c'est que la première fois que le film a été présenté, c'était ici au Festival du Réel. Et donc il était présenté en grand, c'était en vidéo, quoi. Et quand j'ai vu que les gens, ils étaient touchés parce que c'était en grand et que qu'il y avait un rapport cinématographique fort avec le public, je me suis dit il faut absolument que j'en fasse une copie 35, quoi. Et à l'inverse, j'avais l'impression que scène de ménage était plus quelque chose de très intime qu'on peut regarder tout seul le soir à la télé, etc. Et c'était tourné en 35. Voilà.
Et juste vous dire, donc lundi, vous pourrez voir Scène de ménage accompagnée par Claire et Annick Peignet-Julie dans une séance où ce sont trois courts-métrages, deux courts issus d'une, euh, d'une émission avec pour thème le fait divers et puis scène de ménage. Donc on voit beaucoup de courts-métrages finalement. Et récréation que vous pourrez voir sur grand écran, ce sera le 4 octobre, accompagné peut-être par Claire et par Catherine Bizerne, qui est justement déléguée générale du Festival Cinéma du Réel, où le film a été montré pour la première fois. Donc maintenant...
Puis restauré, hein.
Oui, c'est vrai.
De récréation.
Et maintenant, oui, peut-être... voir avec toi, Luc, cette collaboration de plus d'une dizaine d'années maintenant, où vous vous retrouvez après chaque tournage où Claire a expérimenté de nouvelles caméras pour regarder peut-être ensemble, peut-être en décalé les rushs. Donc voilà, vous savoir comment vous travaillez un peu.
Alors en décalé, non, jamais. Non, on regarde toujours ensemble.
Ah oui, oui.
Oui, non, c'est même la clé de tout. De regarder les rushs, pour moi, c'est la clé de tout. Ça, c'est le plus important. C'est un moment qu'on partage. Alors, avec Claire, souvent depuis le début, le premier film qu'on a vraiment monté ensemble, c'était Le Bois, où il y avait beaucoup, 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 beaucoup de rushs. Et donc, Claire faisait des présélections en général, et voilà, qu'on regardait ensemble. On parlait, en général, la présélection, elle garde l'ordre du tournage. En général, c'est ça. Parce que c'est pour moi une chose très importante, c'est que je pense que le tournage est la clé de tout, quand même. Je crois plus au tournage qu'au montage, profondément. C'est pas du tout une figure de style. Je crois au tournage, que le montage raconte, d'une manière ou d'une autre, toujours le tournage. Que c'est une chose très importante. Et donc on regarde ensemble la présélection que Claire a faite, et puis, en général, elle me laisse, elle va faire une autre présélection pendant ce temps-là, et moi je monte ce qu'on a vu et ce dont on a discuté, parce qu'évidemment, évidemment, on discute beaucoup, c'est quand même toujours ça aussi le montage, c'est de beaucoup parler quand même. On parle, alors maintenant... Ça fait plus longtemps qu'on travaille ensemble, donc je comprends plus vite, je crois. voilà, après, c'est toujours le truc... Je dis toujours ça un peu comme une manière de blague, de dire que quand je monte, je deviens Claire Simon. Mais en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Je deviens Claire Simon. C'est-à-dire que... je revis la question du tournage. Je me mets aussi, même si j'en ai pas l'air, je deviens une fille. C'est obligatoire.
Transgenre, hein, c'est transgenre, le montage.
Mais c'est-à-dire que je me suis dit ça de manière vraiment explicite, de manière explicite pour le garage, parce que il y a une scène avec des beaux jeunes hommes, torse nu, sous le soleil, qui réparent les motos, et je voyais bien, je comprenais bien la charge érotique qui se passait dans le regard de Claire, et que pour monter ça, il faut forcément, je suis obligé de ressentir cette charge érotique. Si je ne la ressens pas, je ne peux pas bien monter ça. Parce que moi, je vois un beau mec, et puis voilà quoi. Et que je vois bien que c'est autre chose qui se passe. C'est que justement pour restituer cette sensation qu'a Claire au moment du montage, je suis obligé... de ressentir la même sensation. Voilà. Je crois que c'est la chose importante, et vraiment la question du tournage est vraiment essentielle. Donc je pense que c'est ça qui est quand même la clé de tout. Donc maintenant, on se comprend plus vite, je crois.
Oui, absolument. Ouais. Non, mais surtout, tu as intégré dans ta manière de monter, ma manière de filmer, la façon dont... Justement, ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud, c'est-à-dire que, ou c'est toi qui disais ça, le fait que maintenant, je peux, quand je ne suis pas seule, filmer autre chose que l'image du son. Je peux filmer, l'ingénieur du son fait le son, et moi, je peux décrire et être libre, alors que le son raconte l'histoire par les dialogues, etc. Et donc, toi aussi, tu montes en fonction de cette idée-là, quoi.
Oui, bien sûr, parce qu'après, c'est pour moi toujours la deuxième clé du montage, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la question de Claire, enfin, pour les films de Claire, la question de Claire, de devenir l'autre dans ce qu'il est, même dans son caractère, alors que pour le coup, on n'a pas tellement le caractère, et de devenir l'autre, et puis il y a la question de ce qui est filmé, vraiment de ce qui est filmé, et moi, je me rappelle très bien, quand on a monté là, Notre Corps, je vois bien que je suis un peu schizophrène, hein, je suis désolé, je deviens aussi, quand il y a le médecin qui annonce à une femme qu'il a un cancer, je deviens aussi le médecin qui doit annoncer un cancer, donc je suis hyper emmerdé, je suis mal à l'aise, je deviens aussi la patiente à qui on annonce le cancer, et je vois comme je souffre aussi. Je me rappelle très bien quand il y avait les scènes d'accouchement, quand on regarde les rushs des scènes d'accouchement, moi à la fin de la scène d'accouchement, j'ai des crampes au ventre, quoi, donc voilà, j'ai accouché, quoi. Après ça j'ai accouché quand même. Donc voilà, donc on est très nombreux dans la salle de montage en fait. On est une grosse équipe en fait. On est une grosse équipe en fait.
Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on lance un extrait que tu as choisi, ouais. Luc
oui, oui.
Le premier extrait, c'est un extrait du bois dont les rêves
ouais.
sont faits.
Ouais. Voilà, je voudrais montrer ça parce que c'était le début de notre collaboration. Mmh. Et que j'en ai beaucoup bavé.
Ouais, je me souviens que tu me disais, je trouve pas comment monter ouais. Philippe. Ouais. Il s'appelle
et que
Philippe.
Voilà, les autres choses ça allait, et que j'ai fait plusieurs essais sur Philippe que je montrais même pas à Claire parce que je sentais que c'était pas voilà. Et donc voilà.
Bien, donc l'extrait du bois dont les rêves sont faits. C'est, vous allez voir, c'est une séquence de 10 minutes, hein, donc c'est plus long que les extraits qu'on a vus jusqu'ici.
On va vous reposer un peu.
Et pourquoi cet extrait ?
Bah, bon, parce que j'ai beaucoup galéré quand même déjà.
Pourquoi on galère à monter Philippe ?
Parce que, voilà. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai vu les rushs, peut-être qu'on va raconter un peu comment ça s'est passé, parce que c'était quelque chose, donc quand Claire m'en a parlé, j'avais compris que c'était un personnage important pour elle, qu'elle avait été très, très touchée, qu'elle avait beaucoup galéré pour réussir à le tourner,
ouais.
qui ne voulait pas être filmée au début. Mmh. Et puis, comme ça, dans le tournage, moi je me rappelle au début, quand j'avais vu, je trouvais qu'il était un peu énervant, qu'il se la racontait un peu, qu'il faisait des manières avec la caméra. Et puis, quand le gars en vélo passe, Claire relève la caméra et le film, et là, ça dure, je ne sais pas, 4-5 heures, un truc comme ça. Mmh. Et donc, voilà. Et donc, moi, je me rappelle, quand j'ai vu, je me suis laissé embarqué complètement dans cette espèce de folie, quoi, dans cette espèce de folie. Et que, quand j'ai essayé de monter, c'est très compliqué parce que chaque raccord, chaque coupe fait sens, enfin, forcément. Et que, si on fait sens avec cette folie, on tombe à côté. Et que voilà, que c'était très compliqué. Jusqu'au moment où je crois que j'ai compris que c'était la question essentielle pour lui, c'était la question de sa musique. Mmh, c'était sa musique à lui. Et que c'est monté là, non pas sur la question, bien sûr, de ce qu'il raconte, parce que... mais c'est-à-dire que dès que j'ai essayé de mettre de la cohérence dans ce qu'il racontait, on tombait à côté, parce qu'évidemment, c'est pas quelqu'un de méga cohérent. Et en même temps, dès que le montage racontait l'incohérence, tout d'un coup, on avait l'impression que le montage forçait son incohérence. Or, toute la question, quand j'ai compris cette histoire de musique, c'est que c'est vraiment la musique de Philippe qui est montée et que c'est comme ça que c'est travaillé. Alors, par exemple, d'un strict point de vue pratique, vraiment pratique de montage, c'est toute la question des silences qui entourent chaque raccord. Et qu'il y a des silences qui sont fabriqués en vrai, c'est-à-dire que comme on est dans le noir, comme il a une barbe, je peux couper du son et il ne parle pas et je prolonge les silences. Et que c'est toute cette question-là qui fait qu'on le voit, lui, on ressent comment il change d'idée au fur et à mesure, comment il dérive tout d'un coup il raconte un souvenir du bel appartement, c'est pas très bien, et puis voilà. Et donc c'est vraiment cette histoire de la musique, et que c'est pour dire aussi que la question du montage est toujours aussi la question du réel qui est filmé, et que Philippe, au fond... induit un montage, induit vraiment un montage, et que d'autres personnages qu'il y a, on ne les montre pas pareil, alors que c'est le même film, c'est la même réalisatrice, il y a ta place est plus ou moins la même dans le bois, on va dire, globalement. Pas tout à fait, parce que les personnages n'étaient pas tout à fait pareils avec tous, mais en gros. Et en même temps, le montage de chaque personne, on en rencontre quand même une petite collection, n'est jamais le même, ne fonctionne jamais sur le même, sur le même principe.
Oui, le tournage avait été extrêmement fort et émouvant. Et on a été resté 6 heures ou 7 heures avec lui. C'est pour ça que c'est très sombre, jusqu'à ce que la pluie, la nuit tombe, etc. Et effectivement, quand je vois la séquence, je me replonge dans sa musique. C'était vraiment cette musique comme ça, avec des morceaux de récits qui sortaient, mais d'ailleurs, on voit qu'il se berce avec sa musique comme ça. Voilà.
Il y a aussi quelque chose qui apparaît. Alors, est-ce que c'était au tournage déjà la construction d'un espace autour ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as filmé ? Une sorte de pré-montage au tournage. Et ensuite, comment est-ce que vous avez construit
c'est-à-dire
l'espace ?
tous les gens qui passent derrière les arbres des deux côtés, etc., avec cette cabane incroyable. Voilà, c'était déjà l'endroit était très fort, quoi. Ouais.
Oui, après, c'est le truc qui est très, très important pour ce film, c'est que le film, ça a été le combat pendant tout le film, que ce film ne soit pas une série de portraits. Que le film, c'est le bois, et que c'est la question du lieu qui fait que tous ces gens-là sont dans le film. C'est pas des portraits, c'est pas une galerie de portraits qui se succèdent, quoi. C'est les habitants du bois, et que la question, dans toutes les scènes, je crois que pour le coup, peut-être pas toutes, mais très souvent, il y avait toujours plus ou moins. Et alors, ce que je veux juste dire là, c'est que quand même, je crois que globalement, ces plans-là ont tous été tournés avec Philippe. On pourrait se dire que, parce que le bois, on pourrait dire que le bois, c'est toujours le bois, que le bois là et le bois 200 mètres plus loin. Mais globalement, je crois qu'on a toujours fait les plans qui ont été tournés à ce moment-là.
Ouais.
Ah, vraiment, je
Bien
crois
sûr.
Que ça...
Oui, on n'a jamais été chercher...
J'ai pas de souvenir d'avoir fait ça, quoi.
Non.
Alors que
non.
C'est des choses qu'on peut se permettre de temps en temps.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, je crois que là, vraiment, ces plans-là ont été tournés à ce moment-là. En tout cas, le vélo, c'est sûr, parce que c'est là que, justement, que la caméra se relève quand il y a le gars qui passe avec son vélo.
Mais ce que je trouve assez beau, c'est que tu as commencé par dire que pour toi... le fait de monter, c'était vraiment d'aller vers l'autre avec qui tu collaborais, mais que je trouve que ta caméra, Claire, ou en tout cas ton regard, c'est aussi un mouvement vers l'autre. Et donc, je comprends que vous soyez nombreux et nombreuses en salle de montage, mais parce qu'on se sent proche de Philippe et sans pouvoir accéder à quelque chose de direct de lui, on est avec lui, vraiment. C'est très réussi.
On parlait vraiment des histoires de caméra. C'est un vrai truc de Claire, en tout cas, de cette question de faire corps avec ce qu'elle filme. Elle est là. D'ailleurs, j'étais vraiment... Ça m'amusait de revoir Patricia, que je n'avais pas vue depuis très longtemps, de voir que même quand Patricia s'en va, Claire est là en l'attendant. Donc la question du personnage réalisatrice est une vraie place, et que évidemment cette question-là n'est pas que là il y a la voix au début, donc dans le bois il y a un peu de voix, il y a un peu de sa présence physique, mais c'est la présence même de la femme qui filme, quoi. C'est ça qui est très important, et que c'est vrai ce que tu dis sur la question d'être l'autre. On a déjà discuté de ça, que quand elle filme les enfants de récréation, elle devient un enfant. Quand elle filme des garagistes, elle devient une apprentie garagiste. Quand elle filme, quand elle est à l'hôpital, là pour le coup, elle devient malade. mais voilà, il y a un vrai truc de l'engagement du corps de Claire dans ses films, quoi, et que c'est une chose très importante, vraiment très importante.
Et je sais qu'il y a un dernier extrait qu'on voulait montrer. Ouais. Si on veut aussi pouvoir prendre certaines questions ou remarques de la part de la salle, est-ce qu'on peut montrer maintenant l'extrait que tu as choisi ? Ouais. Donc c'est un extrait du concours.
Oui, c'est le début du film.
Le début du film, donc on va le lancer.
Merci. Est-ce que on montre parce qu'il y a
faire la version un peu plus courte.
Jérôme, 9 minutes 32, je crois.
Merci.
Il n'est pas 12.
Oui, et là, à nouveau, avec le concours, l'idée est quand même de montrer les étapes d'un processus et de ne pas forcément s'attacher à une personne dans un film. Comment vous avez travaillé pour décrire ces étapes et ce processus?
Alors ça, on n'a pas travaillé du tout pour ne pas s'attacher à une personne, parce que Claire ne s'est pas attachée à une personne pendant le tournage. Donc moi, je dis toujours ça du montage. Hein. L'espèce de légende selon laquelle on peut tout faire en montage, je n'y crois pas du tout. Je dis toujours, au montage, on fait avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, ça veut dire avec ce qui a été choisi, en l'occurrence. Et que jamais... Il n'y a pas deux fois la même personne qui a été suivie à deux étapes du concours. Jamais, je crois. Il n'y a jamais eu ça. Donc, de toute manière, cette question-là ne s'est jamais posée au montage parce qu'on n'avait pas ça. Alors, justement, je voulais rebondir parce que c'était un peu pour ça que je voulais montrer ce morceau-là. Parce que d'autres raisons, j'ai écrit un journal sur ce montage-là où je raconte, enfin, où je décris tout. Chaque jour de montage, et j'ai retrouvé le premier jour où on regarde les rushs de ça, mais évidemment de bien d'autres choses. La journée se finit dans cette épreuve-là, mais pendant toute la journée, on regarde et il y a plein d'autres séquences délicieuses, très drôles, très instructives. Il y a, alors, notamment à la journée porte ouverte, il y a toute une description de ce que c'est que l'école, qui nous dit. Sur ce que tu disais, sur la description du concours qui dit comment ça se passe, les trois tours qu'on va avoir, qui nous dit le nombre d'élèves, les départements, qui explique ce qu'on va voir après. Et ça a été monté, hein, ça a été monté pendant très longtemps. Ensuite, il y avait la préparation du concours, quand ils choisissent l'extrait de film. Donc il y a une séquence qui a été très longtemps dans le montage où on voit donc Alain Bergala, le directeur du concours, le directeur des études et le directeur de l'école qui discutent, et c'est vraiment les trois cardinaux qui parlent, Claire dit évidemment quatre hommes. Il y a une autre séquence où à trois, ils décident du mot, du dossier, etc. Et voilà, il y avait plein de séquences et qui ont été très longtemps. Et donc, dans mon journal, j'ai vu que, en fait, d'abord, dès le premier jour, Claire m'avait toujours dit, le plan des grilles, de la grille qui s'ouvre, c'est comme ça que j'ai compris le film que je devais faire, qui était, qu'elle a dit ça dès le premier jour, qui est la question du désir. Ce film, c'est la mise en scène du désir de ces personnes, de ces jeunes gens. Et j'ai dit, moi, le premier jour, quand j'ai vu les rushs, enfin, j'ai noté ça dans mon journal le premier jour, et j'ai écrit, j'ai l'impression que le film commence à Nanterre. Et ce processus-là, qui était déjà là, le montage était déjà là dans nos propos le premier jour, que j'ai noté, en plus, ce n'est pas des choses que j'ai retravaillées après, ce qui est le résultat, c'est là, mais ça a mis 4 mois à se faire. Et vraiment, cette séquence du choix des mots, je ne sais plus lequel est resté le plus longtemps. Mais il y en a un qui est resté vraiment très longtemps, quoi. Les mots, hein, je crois que c'était les mots qui est resté très longtemps. Et donc, c'est pour dire deux choses que je voulais dire ça, c'est que il y a toujours ce truc, aussi une autre légende sur la question du montage qui enlève, du montage qui soustrait, qui est la question de la soustraction du montage. Donc, effectivement, on peut dire qu'on a enlevé la présentation de l'école, on a fait le choix de ne pas la montrer, on a fait le choix de ne pas présenter les mots, de ne pas présenter bien le concours, de ne pas bien présenter l'école. Mais au fond, cette histoire de la soustraction, qui est évidemment aussi quelque chose de réel au montage, on enlève des choses, mais qui est aussi une question de, au fond, ce montage-là raconte la question du désir. Et que la question des mots, la question de la présentation de l'école ne racontait pas le désir. Et donc, le montage est arrivé en disant c'est la question du désir, ben, le montage raconte ça, l'entrée des élèves, l'espèce de fascination du cinéma, puis l'arrivée à l'école, tous ces visages qu'on trouvait merveilleux, accrochés au film qu'ils regardent, qui est cette question du désir du cinéma, d'un espèce de rêve, quoi.
Et même l'extrait du film fait référence au désir. Non, mais parce que c'est vrai que l'extrait est assez longuement filmé. Ouais. Voilà.
Et de travers. Volontairement.
Oui, et pareil, alors encore une fois sur la question de la présence de la cinéaste, c'est-à-dire qu'on aurait pu, on aurait très bien pu récupérer l'extrait et rentrer plein pot dedans, l'avoir bien, avec les sous-titres bien. Moi, je trouve extraordinaire de voir Claire qui va chercher les sous-titres et qui tombe évidemment merveilleux sur le rêve, tu vas réaliser mon rêve, quoi. Et que, mais que c'est vraiment, ça c'est vraiment le truc de ce cadre qu'il va chercher. Et que, évidemment, si on était plein pot, jamais on n'aurait eu cette idée-là.
Non,
jamais.
Non.
Et l'image est un peu de traviole, ce que je trouve très beau aussi.
Ouais,
et, tout
ça. Ouais. Et puis aussi, sur comment tous ils arrivent et qu'ils ont pas, il leur manque les étiquettes, il leur manque les trucs, etc. Et qu'au début, le montage était plus respectueux du protocole.
Et du processus
que,
même.
Ouais, et que moi, je trouvais qu'il fallait montrer que les accidents. Que c'était les accidents qui montraient le désir, l'enthousiasme, la fille en rose, avec tout par terre, etc. Voilà. Et après, moi, en revoyant ça, ce que ça me fait, c'est que j'adore voir les jeunes gens en train de réfléchir, quoi. Ça, je dois dire que c'était vraiment un truc que je trouvais très, très beau, parce que chaque visage est différent. On voit, on comprend, on est à leur place, quoi.
Oui, c'est donc, ça, c'est la question de l'identification, de rester sur ces visages-là, comme ça, c'est que je trouve toujours...
Enfin, moi, j'aimais beaucoup les filmer, quoi. J'aime bien filmer les gens qui disent rien, quoi, en fait, parfois.
Voilà. Après, l'autre chose que je voulais dire par rapport à tout ce travail, c'est que c'est toujours la question, bah, là j'ai parlé de la question du désir, au fond, toute la question du concours soulève une question philosophique que posait Claire, c'est comment juge-t-on les autres ? Au nom de quels critères ? Et que c'était ça l'idée du film, depuis le début, tu avais dit ça, le film était plus large, c'était pas que le concours, c'était plus sur l'école, on avait vu
les diplômes.
Les diplômes, l'égalité des chances, il y avait d'autres séquences, même une séquence où ils mangeaient des pizzas, je m'en rappelle plus, je me suis rappelé de ça l'autre jour.
Ah ouais ?
Dans la cour, ils mangent des pizzas.
Ah ouais ?
Bref. Et donc, c'est toute la question du jugement qui est dans le film, et que cette histoire du désir... Et la préparation de la question du jugement, évidemment, parce que c'est le désir qui va se heurter au jugement. Et que, je veux dire ça pour dire qu'il y a toujours, au fond, une idée qui porte le film. Le bois ne s'appelait pas le bois pendant tout le temps, le bois s'appelait le bien. Pendant tout le travail, le bois s'appelait le bien. Ça voulait bien dire que, c'était le première fois qu'on travaillait vraiment ensemble, je me disais, ouf, la vache, le bien, c'est enfin, le bien avec un B majuscule, évidemment. Hein, et que je me disais, ben voilà, c'est ça. Au fond, c'est ça, il y a une idée qui traverse tout le film. Et le jugement, c'est ce qui traverse toute la question du concours. On pourrait dire que le village, c'est l'idéal. Voilà. Et que je crois que c'est une chose assez importante qu'il y a toujours dans tes films, il y a toujours une idée philosophique, anthropologique, on pourrait dire, je sais pas, c'est, qui porte le film, quoi.
Voilà.
Marion, est-ce qu'on prend quand même...
On pourrait prendre quelques questions.
Voilà.
S'il y a des questions dans la salle.
S'il y en a. Monsieur là.
J'aimerais bien que vous réexpliquiez ce qui était, parce que j'ai pas bien compris ce qui était compliqué dans Philippe, là, pourquoi le montage était compliqué. Qu'est-ce qui aurait fait que ça aurait été un mauvais montage ? Enfin, vous avez pas montré un mauvais montage, donc c'est difficile, mais. Voilà. Est-ce que c'est le choix de l'extrait ou est-ce que c'est... Vous avez parlé de silence et de... Est-ce que tous les plans étaient serrés sur...
Oui.
D'accord, non.
Mais il dit, enfin excuse-moi, je vais parler à ta place, mais il fallait retrouver le rythme de cet entretien avec la musique qu'il a, lui, quand il parle, qui est comme quelque chose, même comme un souffle, voilà. Et qu'il faut qu'on... Il fallait retrouver ça pour que le montage n'ait pas l'air de démontrer quelque chose, mais plutôt d'être porté par les différentes choses dont il parle, voilà, avec tout le temps cette musique qu'il a dans la voix.
Par exemple, un mauvais montage que j'ai essayé, ça a été, par exemple, de faire comprendre la vie de Philippe. Et donc de dire, ok, je commence quand il a 20 ans, il fait des études, ensuite il ne sait pas quoi, et puis ensuite il arrive là et il y a le renard. Et non, ce n'est pas ça. Philippe n'est pas comme ça. Son raisonnement, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai monté dans l'ordre, hein, ça, pour être tout à fait honnête, c'était il y a quand même 10 ans, donc je ne m'en rappelle plus, mais je sais qu'il y a des choses où j'ai bougé l'ordre, évidemment, mais c'était vraiment de restituer, d'être dans sa tête. Vraiment d'être dans sa tête. Je deviens Philippe. C'est vraiment, je deviens lui. Hein. Voilà. En plus, moi je trouve. Je m'identifie. Voilà. Je suis un peu comme un acteur. Je m'identifie comme si je devenais l'autre, quoi. Mm. Et donc voilà. Et donc le mauvais montage, par exemple, aurait été de restituer la chronologie de la vie de Philippe, par exemple. Ou au contraire. Je sais qu'à des moments, je me disais « Ah, mais j'amplifie son incohérence. » Alors qu'il a une cohérence extrême. Extrême, vraiment. Il est absolument cohérent. Mais il est cohérent pas comme moi quand je parle. Et donc, c'est cette question-là qui est très compliquée, de restituer et son incohérence et de ne pas chercher à moi lui imposer quelque chose. Alors, j'impose forcément, enfin, on impose quand on fait du cinéma, bien sûr on impose, mais c'est d'essayer de restituer au plus près, au plus juste, je me méfie un peu de ça, mais au plus près ou au plus juste de ce qu'il est, quoi.
Bonsoir. Je m'étais questionné en fait autour de la séquence du voyeur dans les bois dont les rêves sont faits, et je me demandais en fait au moment du tournage comment c'était, c'est-à-dire est-ce qu'il vous a dit de venir? De le suivre réellement et vous, comment en fait vous êtes placé vis-à-vis de ça? Comment vous avez placé votre caméra?
Je le raconte un peu dans le film. En fait, on tournait avec la femme seule et son enfant. J'étais enfin très contente d'avoir trouvé une femme pour qui se promener avec son enfant était aussi une expérience forte de la solitude. En plus, elle était très belle et tout, c'était vachement bien. Et mon assistant à ce moment-là, parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait le son, c'était Lucas Delangle, et il me disait, il y a le voyeur qui me passe des messages sans arrêt. Venez, je suis sur un coup, venez. Bon, alors, on passait d'un truc à un autre qui était quand même... Bon, on a quand même pu finir la séquence avec... cette femme que j'aimais beaucoup, et puis on a foncé là où il nous a dit de le rejoindre. On avait déjà tourné une séquence avec lui où il voulait pas se faire filmer, puis il se mettait plus loin, et puis je voyais son ombre, etc. Mais là, quand on est arrivé, il a pris les choses en main, il nous a dit vous mettez là et vous filmez, voilà. Et donc, on a une séquence très, très, voilà, un peu, waouh, costaud. Et elle est extrêmement documentaire. C'est-à-dire que c'est peut-être, on pourrait la voir comme un film lumière, quoi. De temps en temps, au bois de Vincennes, ça pourrait s'appeler comme ça. Voilà. Moi, jamais j'aurais imaginé que j'allais filmer un exhibitionniste voyeur en train de faire se masturber devant un couple qui avait l'air d'accord, etc. ça m'aurait vraiment, je pensais que c'était, mais c'est lui qui a pris les choses en main. Et il m'a dit, vous mettez là, vous faites ça, vous ne faites pas de bruit, vous filmez. Voilà. Et il s'est mis devant la... Enfin, il s'est mis dans la scène, quoi. Et je crois que cet homme qui avait peur d'apparaître... sa femme n'était pas au courant que... voilà, il pistait des gens tout le temps au bois pour les voir s'embrasser, faire l'amour, etc. Et que il avait plein de copains avec qui il faisait ça et tout. C'était vraiment son truc. Et que tout d'un coup, il a décidé de le montrer, quoi. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Voilà. Ça vous va comme réponse ? Ouais ?
Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport au tournage. Je me demande... Là, je suis là. Ici. Je me demandais si, au moment du tournage, vous choisissiez, par rapport au sujet principal du film, de tourner ce qui vous semblait vraiment nécessaire pour le sujet, ou est-ce que parfois vous faisiez des digressions et vous laissiez porter par juste ce qui vous intéressait, enfin quelque chose de plus instinctif?
Ben, je raisonne pas exactement comme ça, quoi. Je tourne, tout doit être lié dans ce que je filme, dans une séquence, enfin dans un, je filme cette séquence, ce qui, comme par exemple Philippe, bah, les bois autour, voilà, c'est lié, c'est important de lier, quoi. La tradition de la télé, quoi, on fait, j'essaie de faire exactement le contraire, quoi. On fait une interview, machin, sur un sujet, on sait déjà ce que le mec doit dire, et ensuite, on fait ce qu'ils appellent des plans d'illustre. Clac, 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 clac. Voilà, donc moi, je fais exactement le contraire. Là, c'est le premier film où je parlais beaucoup avec les gens. Je n'avais pas fait ça avant, dans le bois, je veux dire. Mais pour moi, tout doit être lié. Et c'est pour ça que je vous parlais du panoramique, c'est-à-dire que la caméra, à mon avis, elle fait un lien entre les éléments, entre les gens, entre ce qu'ils font, si on parle que de ce qu'on parle, et puis de ce qui se passe en même temps. Voilà. Et que quand on essaye d'ailleurs de mettre des trucs qui ne se passent pas en même temps, ça ne marche jamais. Vous voyez ? C'est parce que tout est lié, quoi. Voilà. Je n'ai pas de programme. Genre, je me dis, je fais un plan d'ensemble. Après, voilà. Et par exemple, dans mon dernier tournage, je m'en suis beaucoup voulu parce que j'ai même pas... Enfin, je ne sais pas, on verra si ça pose beaucoup de problèmes. Mais j'ai tourné que ce qui m'intéressait, quoi. Avec toujours le contexte, etc. Mais... vous voyez, par exemple, dans l'extrait des patients, on voit bien, ben voilà, il arrive dans la rue, machin, il reçoit la clé, il ouvre, il a du mal, machin, il monte les escaliers. Tout ça, c'est inutile, si on veut. Mais ça raconte la relation qu'il a avec sa patiente. Et puis, il emmène le mari en voiture... voilà, et d'ailleurs, dans la voiture, il lui dit, s'il y a un problème, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça continue, là. Donc, en fait, tout est lié, quoi, si vous voulez. Alors que... et je ne sais pas ce qui va arriver, bien entendu. Alors que, dans le principe que j'expliquais avant, d'abord, parce que quand j'étais assistante monteuse, il m'arrivait de gagner ma vie en allant dans les régions monter des sujets pour la télé, etc. C'était très, très... Parfois, c'était très marrant, mais c'était très douloureux dans la pauvreté totale de mise en scène, de... Voilà. Et il y a cette idée que, surtout, on demande aux journalistes de savoir avant ce que le type va dire. Ils y vont pour enregistrer quelque chose qu'ils savent déjà, quoi. Donc c'est, voilà, c'est catastrophique, quoi.
Et c'est vrai qu'après, enfin, Luc en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que chacun de tes films est en même temps toujours très bâti autour d'une idée. C'est vrai, c'est souvent abstraite, philosophique, le bien, le désir, le jugement. La gare du Nord, c'était le monde et la place du village. Enfin, et c'est vrai qu'il y a... Et qu'ensuite, enfin, je me permets ce petit raisonnement, et que tu te permets toutes les digressions après autour de ce principe fil conducteur, je ne sais pas, et qui est souvent de l'ordre de l'abstrait, par contre, souvent des idées assez abstraites que tu vas ensuite chercher ou faire même accoucher dans ce à quoi tu te confrontes.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est savoir est-ce que vous vous permettez d'intervenir dans certaines de vos scènes ou est-ce que vous organisez des séquences ? À quel moment est-ce que vous vous permettez d'intervenir avec le réel ? Et par exemple, parce que dans Coûte que coûte, vous parlez d'acteurs en parlant des personnages que vous filmez. Et je sais que c'est une... Enfin, du coup, je me suis posé cette question-là. Et aussi, est-ce que... comme dans les années 80, vous parlez de liberté, de filmer Patricia, de ne pas savoir ce qui allait se passer au fur et à mesure. Et comment vous préparez vos films aujourd'hui ? Est-ce que vous passez beaucoup de temps sans filmer ? Est-ce que vous y allez directement avec la caméra ?
Voilà. Alors, oui, j'interviens avec ma voix quand je trouve que je peux relancer quelque chose, que je pose des questions en gros de scénario, quoi, qu'est-ce qui s'est passé ou comment, enfin une toute petite relance, quoi, voilà. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un est-ce que tu pourrais faire ça pour la caméra. Non, ça je l'ai jamais fait. Voilà, je l'ai fait en fiction mais pas en documentaire. Parce que je pense que les documentaristes ont un honneur qui est de toujours être capable de raconter ce qu'ils voient, ce qui se passe, sans jamais... il faut être à la hauteur du réel, vous comprenez ? Si on commence à trafiquer, on n'est pas à la hauteur de grand-chose, quoi. Donc, voilà. Et puis, l'autre question, c'était quoi ? Ah oui, bah je dis les acteurs parce que je pense que les gens que je filme et qu'on filme, qu'ils soient en fiction ou en documentaire, sont des acteurs. Ça ne veut pas dire que je leur donne le texte, mais ça veut dire qu'à partir du moment où je les filme et où on suit une histoire, ils sont... et puis qu'ils subissent, par exemple, dans Coûte que coûte, toute cette histoire, mais que ça soit à l'hôpital aussi, etc. Ils traversent... vous voyez, la petite dame en robe de chambre, là, elle est patente, vous voyez. Elle joue, quoi. Elle sait qu'elle joue parce que quand je dis qu'elle joue, elle joue pour le médecin. Vous voyez, elle fait sa scène avec le médecin, comme on fait plein de scènes dans la vie, quoi. Et lui aussi, il fait sa scène avec elle. Ils sont en train de faire leur scène, quoi. Et elle l'attend depuis longtemps, cette scène. Hein. Voilà. Et il la joue, pas pour la caméra, il la joue entre eux. Et moi, je vois que c'est une super scène, quoi. Et donc, j'en profite, si vous voulez. Mais ce sont... Alors, par exemple, chez Fatih, le cuisinier de Coûte que coûte, il parle aussi pour faire face à l'humiliation que la boîte ne marche pas, qu'il est dans une boîte qui est en train de peut-être couler, etc. Et donc, parler, c'est passer au-dessus de la honte, quoi. Et que donc, c'est un truc très fort au niveau du jeu. Vous voyez, c'est énorme, en fait. Et moi, je dis toujours que dans... Enfin, dans Coûte que coûte, il y a une autre scène aussi, mais où il explique à quel point c'est exactement comme Brutus is a good man, dans comment je ne sais plus qui dit ça dans Shakespeare, mais il dit, celui qui a tué César, oui, Brutus est un homme bon, etc. Ben, Fatih fait exactement la même chose. Ah, Djihad, il est vraiment très fort, hein, vraiment formidable. Hein. Alors lui, question commerce, parce que ça continue en fait, là, cette question commerciale. Alors là, lui, vraiment, chapeau et tout. Et on comprend que c'est vraiment pour passer au-dessus de la honte, quoi. Voilà, c'est parce que la situation est très puissante de ce qu'il vit qu'il joue, enfin il joue, qu'il interprète ses sentiments aussi bien, quoi, enfin, ou que ses sentiments colorent complètement ce qu'il dit, quoi. Voilà, c'est toujours la situation qui est extrêmement, qui produit la façon dont les gens sont, parlent. Voilà. Et quand je dis acteur, c'est aussi qu'il arrive, qu'on sente comme réalisateur, metteur en scène, que des gens sont faux, qu'ils en font trop, etc. Et là, il faut trouver comment faire pour que ça n'arrive pas. De la même manière qu'en fiction, si vous voulez. Alors en fiction, vous pouvez dire « t'en fais trop là ». Tu vois, mais là, vous ne pouvez pas leur dire que tu en fais trop. Mais il faut trouver, tout d'un coup, se déplacer, s'intéresser à autre chose pour que quelque chose de la justesse de leurs sentiments réapparaisse, quoi. Et qu'ils ne soient pas en représentation. Ils sont, par exemple, la petite dame, elle est en représentation, enfin, surtout le médecin est en représentation parce qu'il joue la scène et que la scène va la soigner, quoi. C'est, voilà, c'est pas une représentation pour le plaisir de la représentation, c'est comment on se parle, comment on fait la consultation, quoi. Voilà, c'est une scène. Et la première fois que j'ai tourné une patiente avec le docteur Bouvier, c'était cette femme qui était dans le lit avec un béret, voilà, et qui n'entendait rien, et elle lui dit « Ich bin krank !» je suis malade. Ich bin krank, parce qu'ils ont été occupés par les Allemands, etc. Donc voilà. Voilà, si ça c'est pas joué, je sais pas ce que c'est, quoi.
Merci beaucoup pour vos questions et merci beaucoup Arnaud, Claire et Luc pour votre parole. Il y a une séance juste après la masterclass à 20h de Mimi, ouais, où j'espère, Claire, tu pourras nous présenter un peu le film.
Très volontiers. Ouais.
Mimi, c'est merveilleux. On a une belle copie de la Cinémathèque de Toulouse, donc je vous invite à rester. C'est une séance aussi en entrée libre. Et malheureusement, on doit terminer cette conversation.
Ouais. Bon, merci. Merci beaucoup.